France Culture.
À voix nue. Cette semaine, Simone Douek s'entretient avec Francis Allais. Tout commence dans un sous-bois. Francis Allais, c'est dans ce décor peu habituel que nous commençons aujourd'hui nos entretiens. Je parle de décor, je devrais plutôt parler de paysage, puisque nous marchons dans un bois de pins. Puisque nous entendons aussi ensemble, et je pense que le micro de Jean-Pierre Pernel le fait bien percevoir, le vent qui passe dans les frondaisons de ces pins. Mais il est quand même peut-être temps que je dise pourquoi nous avons choisi ensemble de nous trouver ici, au milieu de ces arbres, en bordure de la mer Méditerranée, très près de Montpellier, où vous vivez et où vous travaillez. Vous êtes Francis Allais, botaniste et biologiste, et vous avez enseigné longtemps à l'Institut de botanique de l'Université de Montpellier. Vous retournez d'ailleurs bien volontiers y donner des cours de temps en temps. Vous êtes botaniste, biologiste et aussi dendrologue, c'est-à-dire que vous vous préoccupez de la science des arbres auxquels vous accordez une attention soutenue dans vos travaux. C'est donc la condition végétale qui va nous occuper pendant ces quelques jours passés ensemble. Condition végétale, condition admirable, nous direz-vous. Et à tant aimer les plantes, on voudrait tout en dire d'un seul coup en même temps, ce qu'on ne fera pas, car même à l'observateur scientifique que vous êtes, se ferment encore des mystères biologiques que vous et vos collègues ne cessez d'interroger. On ne dira pas tout non plus, parce que le monde végétal, les individus végétaux, je suis prudente en utilisant ce terme que nous éclaircirons ensemble, chaque plante ou chaque racine nous entraînerait à chaque fois dans un cortège de récits que nous ne pourrions épuiser ici. C'est cependant, bien sûr, votre propre regard sur les plantes qui nous guidera, votre aventure personnelle avec celle que Pierre Liotagui appelle les plantes compagnes. Et cette aventure qui est la vôtre nous fera voyager dans l'espace et dans le temps, des sous-sols au ciel des arbres, puisque vous avez commencé il y a une vingtaine d'années l'expérience du radeau des cimes à la découverte de la canopée. Et nous irons aussi d'une latitude à l'autre, puisque votre étude du végétal vous a mené jusqu'aux tropiques. Mais pour l'heure, commençons ici, dans ce sous-bois, dans la discrétion de cette petite clairière au milieu des arbres, dans la discrétion de ce couvert arboricole qui va me permettre de vous demander ce qui vous a amené à la botanique, alors que vous faisiez d'abord des études de zoologie.
C'est vrai, vous avez raison, j'ai commencé par m'intéresser aux animaux. Remarquez que la plupart des gamins, ils s'intéressent aux animaux. C'est un intérêt spontané, il n'y a pas besoin de les pousser à ça. Et puis, je me rappelle encore le moment précis où les animaux m'ont paru un peu superficiels. Et je me suis dit que la vraie chose, c'était les plantes. J'étais au Quartier Latin, puisque je suis parisien, je faisais mes études à la Sorbonne. Et sur le balcon de ma chambre, il y avait un pot de fleurs dont je ne m'étais jamais occupé. Et puis un jour, j'ai vu une plante qui sortait de là. Et puis elle a poussé. Et jour après jour, je l'ai vue grandir, se ramifier, donner des fleurs, puis des fruits. Et je ne m'intéressais absolument pas à ce que c'était. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais personne ne s'est occupé de cette plante. Personne ne la soigne. Il n'y a pas besoin de la soigner. Visiblement, elle se débrouille parfaitement sans nous. Et c'est là que je suis devenu botaniste. C'est cette autosuffisance, cette indépendance, vous voyez, des plantes. Alors je me suis dit, si je continue à m'intéresser aux animaux, je vais devoir... Si j'ai un animal sur cette terrasse, il va falloir que je le nourrisse, il va falloir que je retire ses excréments, que je supporte ses cris... Puis comme un idiot, je vais m'y attacher, et le jour où il va mourir, ça va être un drame. Bref, avec les animaux, nous avons une espèce de liaison passionnelle et compliquée. Tandis que là, cette plante ne demandait rien à personne. Et l'année d'après, elle était entourée de toute sa descendance. Je me suis dit, mais c'est magique ça, c'est complètement magique. Réellement, ce moment-là, je m'en souviens, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis dit, mais... à quoi bon s'intéresser aux animaux, puisque eux-mêmes ont besoin de ces plantes, ils ne peuvent pas s'en passer. Par contre, les plantes peuvent très très bien se passer des animaux. Donc il y a une espèce de hiérarchie, vous voyez, et j'ai compris que la plante était à mettre en tête. Seulement, ce qui est paradoxal, c'est que dans notre société, L'animal est volontiers valorisé. Il y a une société protectrice des animaux, par exemple. Jamais on n'a entendu parler d'une société protectrice des plantes, ça ferait rigoler. Qu'est-ce qui est le plus important des deux ? Ça a été le moteur pour me lancer dans cette espèce de procès. Lequel des deux, plantes ou animaux, est vraiment le plus important ? Et de toute évidence, c'est les plantes.
Mais je pense aussi, Francis Salé, que ce serait intéressant de nous raconter, parce que vous me l'avez dit, des souvenirs d'enfance, alors des souvenirs qui, de près ou de loin, ont pu avoir rapport avec votre activité de botaniste.
Sans aucun doute, c'était l'occupation allemande sur Paris. Donc nous ne vivions pas à Paris avec mes parents et mes frères et sœurs. On habitait la Seine-et-Marne. Et mon père, qui était ingénieur agronome, a réussi à nous faire vivre fort bien, à 7 enfants plus 2 parents, sur 1,5 hectare. Et non seulement on vivait bien, mais on offrait de la nourriture aux voisins. Alors là, j'ai gardé une très grande estime pour ce qu'on peut faire avec un bout de terrain intelligemment conduit et des plantes, tout simplement. Mon père, il cultivait des pommes de terre et du blé, et voilà. Et puis, on se chauffait avec le bois qu'il nous faisait abattre et qu'on débitait avec lui. Et c'est vrai que ça m'a attaché aux plantes dès le début, ça. Comme quelque chose d'extraordinairement utile pour l'être humain. L'utilité à sens unique, parce que l'être humain n'est pas du tout utile aux plantes. Alors, une fois que je suis devenu botaniste, je me suis dit, où est-ce qu'il y a le plus de plantes ? Ah, c'est pas compliqué, c'est les forêts équatoriales. Ça, on n'en connaissait pas grand-chose à l'époque, mais on savait au moins ça, que c'était là que ça se passait, la botanique. Donc, j'avais plus de raison de rester en France. D'ailleurs, mes parents et mes frères et sœurs m'avaient donné le... Moi, je suis le petit dernier, donc j'ai assisté à tout ça. Je voyais mes frères partir pour l'autre bout du monde et revenir enthousiaste. Et donc, le voyage pour moi, c'était normal.
Et ils revenaient, effectivement, des tropiques, non ?
Ils revenaient des tropiques, ils revenaient de Savannakhet ou de Kindia ou d'endroits comme ça. Ça me faisait rêver.
Et qu'est-ce qui vous faisait rêver ? Leur récit ?
Ce qu'ils ramenaient d'abord. Une cantine verte, vous voyez, chargée, qui arrivait par les chargeurs réunis à l'époque. On retirait une espèce de baguette métallique, on ouvrait ça, et il y avait des cafards extraordinaires. Ah non, mais attendez, oui, mais moi j'étais parisien à l'époque, et voir ces bêtes-là vivantes...
Ça vous plaisait, ces cafards ?
Ah ben beaucoup. Ben, je ne savais pas que ça avait
quelque
chose de
répugnant. Ils avaient quelle couleur ?
Brun, comme tous les cafards.
Mais voilà. C'était énorme, alors.
Ah oui, oui, Periplaneta, des trucs comme ça. Bon.
Et alors c'était ça votre premier choc des tropiques ?
Ah oui, puis ils avaient ramené des objets et des souvenirs, des photos. Enfin bref, les tropiques, ça m'a toujours fait rêver. Et je peux vous dire maintenant que la réalité dépasse très largement tout ce qu'on a pu en dire.
Vous êtes en train de regarder là le...
Il y a un oiseau de proie qui tourne autour, là, qui est assez beau.
Mais sous un ciel assez beau aussi.
Oui.
Avec la cime de ces pins parasols, très verte.
Oui.
Un vert très tendre et très clair.
Voilà, et puis depuis les plantes, j'ai jamais arrêté. J'ai vu les plus belles plantes du monde, et c'est une source ininterrompue de surprise et d'admiration. Et encore maintenant, je suis allé récemment en Argentine, j'ai vu par exemple des choses que je ne pouvais pas imaginer. Des arbres souterrains, vous imaginez ça ? C'est-à-dire, ça se présente comme une grande tache de feuilles, grande comme cette pelouse là, des feuilles qui sortent du sol, des feuilles et des fleurs, c'est tout. Quand le feu passe, parce que ça brûle chaque année, il n'y a plus rien. Le feu c'est en hiver, et dès que les pluies arrivent, eh ben vous voyez les feuilles qui ressortent. Et l'arbre il a grandi un peu. Et quand on mesure à quelle allure la tache s'élargit, on peut calculer l'âge de cet arbre, c'est des milliers d'années. Des très gros arbres souterrains. Alors moi qui m'étais donné beaucoup de mal pour faire une définition de l'arbre, ben je peux vous dire que tout s'écroule.
Alors il y avait aussi à ce moment-là, quand vous faisiez vos études ou quand vous avez commencé à vous intéresser à la botanique, il y avait des sociétés de botanique. Ça devait être...
Oui, ben, il y a toujours la Société Botanique de France.
Et vous alliez à des séances ?
Mais parfois, c'est des très mauvais souvenirs. C'est des très mauvais souvenirs, parce que je trouvais leur botanique, excusez-moi, chiante, comme pas possible. Et puis une fois, j'ai assisté à une discussion, il y avait un monsieur qui parlait des plantes du bassin parisien. Et sur la base de ces plantes-là, il établissait une règle générale, dont il pensait qu'elle était générale. dans le fond de la salle, il y a un petit bonhomme qui s'est levé, qui a dit « Excusez-moi, monsieur, je ne suis pas d'ici, je travaille au Gabon, mais je peux vous dire que telle ou telle plante ne se plie pas du tout à votre règle. » Et là, le botaniste parisien a mis les rieurs de son côté en disant « Mais attendez, si vous allez chercher des plantes tropicales, c'est pas du jeu, elles font n'importe quoi. Tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de règles dans ces pays. C'est n'importe quoi. Donc évidemment, elles ne rentrent pas dans ma règle. Mais à la limite, c'est méprisable, ces plantes-là. » Et ça, vous voyez, j'étais adolescent et je me suis dit « Mais c'est pas possible de dire des choses pareilles. »
Mais qu'est-ce qui vous a fait vraiment pencher pour cette botanique tropicale ?
Mais tout simplement parce que c'est dans les tropiques humides, autour de l'équateur, qu'il y a l'énorme majorité des plantes du monde. On a démontré après que tous les grands groupes de plantes, que ce soit les fougères ou les graminées, les orchidées, je ne sais quoi, c'est né dans les latitudes équatoriales. Et puis il y a celles qui ont dû y rester, qui y sont toujours. Et puis quelques plantes, on pourrait dire, aventureuses, qui se sont avancées jusqu'en Europe et puis même jusqu'au cercle polaire. Mais c'est une petite minorité. Alors, la botanique, mais je pourrais dire
donc
la même chose.
C'est en fait l'origine.
C'est l'origine.
L'origine des plantes.
C'est l'origine des plantes. C'est également l'origine des animaux. Attendez, je vais me permettre une métaphore musicale. Imaginez un énorme orchestre superbe qui joue sous l'équateur. Alors, quand vous êtes sous l'équateur, vous êtes aux premières loges, vous en profitez pleinement. C'est la faune et la flore. Et puis ici, en prêtant l'oreille, vous entendez du côté du sud un écho très très assourdi. C'est ça qu'on a comme flore et comme faune ici, c'est trois fois rien. Alors c'est sympathique, j'aime bien les plantes d'ici, mais il faut les comprendre comme des émanations très lointaines d'une énorme origine équatoriale. C'est pour ça que ces pays-là m'intéressent.
Vous dites que vous plaidez pour ce métier de botaniste, bon, qui paraît un métier tout à fait florissant, pardon du jeu de mots, ça n'était pas un, mais qui paraît un métier, en tout cas, qui intéresse énormément. Et il faut plaider pour le métier de botaniste.
Si vous permettez, je commence d'abord par plaider pour les plantes, parce que ça ne vous aura pas échappé, elles sont très très discrètes. Elles sont vulnérables, on peut les couper, elles ne rouspètent pas. Donc il faut que quelqu'un prenne leur défense. Bon, et là-dessus, je prends aussi la défense du métier de botaniste, parce que on ne gagne pas des ponts d'or, mais c'est un métier admirable. Fort heureusement, dans ma vie, j'ai formé pas mal de botanistes, une centaine à peu près, et je suis très content qu'ils aient choisi ce métier, d'ailleurs eux aussi. Bon, et puis dans les années 90, la situation politique, je ne sais pas, je reviens pas là-dessus, mais les études de botanique ont été supprimées en France. À l'université, il n'y a plus de botanique. Il y a encore des travaux sur les plantes, mais c'est très spécialisé. Il faut avoir acquis ailleurs la formation de botaniste. Je trouve ça scandaleux. La botanique n'a pas démérité. Nous avons en France, et notamment à Montpellier, une tradition botanique qui est très ancienne et très vénérable. Je pense que le ministre, il a été mal conseillé. Voilà.
Et ça, c'est dû alors à des réductions, à des coupures de crédit, de recherche, c'est lié à cela ?
C'est l'effet immédiat, c'est qu'il y a...
une décision ministérielle.
Voilà. Et moi, quand j'ai pris ma retraite, là, ma chaire, c'est un peu ridicule, mais enfin, mon poste a été fermé. L'Institut botanique de Montpellier a été fermé. Il n'y a plus de botanique à Montpellier. Il y a un labo de botanique, mais encore une fois, ceux qui travaillent là, ils ont acquis leur formation dans d'autres pays. Je trouve que c'est une très grave erreur et je pense que... Alors, c'est d'autant plus ridicule que, à peu près vers la même époque, le grand public a commencé à se passionner pour la botanique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les chiffres d'affaires des jardineries, etc. Il y a une vraie passion pour les plantes. Beaucoup moins pour les animaux maintenant.
Alors, on n'oublie pas qu'on est là pour marcher ensemble dans les sous-bois. D'ailleurs, si vous voulez, on peut avancer un petit peu vers ce sous-bois, Francis Allais, pour nous rappeler que, effectivement, là où aussi a commencé peut-être votre exploration botanique, puisque vous êtes un botaniste, vous êtes un homme de terrain, bien sûr, un homme de laboratoire aussi, mais un homme de terrain.
Moi, j'aime mieux le terrain.
Et le terrain, pour vous, donc, c'est situé à l'endroit où il fallait qu'il soit, c'est-à-dire sous les tropiques.
Les forêts équatoriales.
Dans les forêts équatoriales. Alors, quand on marche dans un sous-bois, en forêt équatoriale, on n'a, j'imagine, pas du tout le même sentiment
non,
que celui que nous avons
dans
ce bois de pin.
Ça ne se ressemble pas. C'est... D'abord, ce qui frappe, c'est que c'est extrêmement sombre. 0,1% de l'éclairement total. C'est-à-dire que c'est comme dans une cave. Bon, alors on s'habitue, l'œil s'habitue, mais c'est vraiment très très sombre. Une autre chose qui frappe, c'est que c'est totalement calme. Vous levez les yeux, vous voyez la cime des arbres qui se balance, donc il y a un alizé très fort là-haut, à 50 mètres au-dessus de vous. Mais là où vous êtes, vous allumez une cigarette, vous voyez la fumée qui monte comme ça.
Pas tout droite, tout
un
tout
souffle.
Droite.
Bon, c'est compréhensible, il y a une rugosité là-dedans qui fait que le vent ne descend pas au niveau du sol. Qu'est-ce qui frappe aussi ?
Les sons, non ?
Les sons. D'ailleurs, votre propre voix, vous ne la reconnaissez pas. Parce que vous êtes entouré, c'est plus serré qu'ici, hein, vous êtes entouré de plein d'obstacles physiques, sous forme de feuilles ou de branches. Et quand vous parlez, vous dites, tiens, mais qui est-ce qui parle ? Ce n'est pas votre voix. Très curieux. Si on est perdu, bon, ça c'est pas drôle, mais quand on veut se faire entendre de loin, il ne faut pas crier, parce que ça ne passe absolument pas. 3 mètres plus loin, on ne vous entend plus. Il faut prendre un madrier et taper sur un contrefort, il faut faire un bruit très sourd, ça s'entend à 10 km.
C'est une vibration plutôt.
Mais très sombre, très sourde, très basse. Parmi les choses qui frappent aussi, on ne voit pas d'animaux. On sait qu'il y en a. D'ailleurs, de temps en temps, on sent une bête qui s'enfuit à toute allure en faisant un bruit de feuilles mortes, mais voilà, on ne les voit pas. Alors en regardant de près un tronc d'arbre, on s'aperçoit qu'il y en a plein. Mais ils sont verts ou bruns, ils ne bougent pas, ils ne bougent pas. Et nous, on est sensibles au mouvement. Si l'animal ne bouge pas, ben on ne le voit pas. Pas du tout dangereux, hein. On y est très bien. On y est très très bien.
Parce que l'état d'idées fausses, non, sur la forêt tropicale.
Alors, parmi les idées fausses...
La machette, le...
Oui, alors vous, dans les forêts que moi j'ai visitées, les belles forêts primaires, vous pouvez courir. Vous pouvez faire du vélo si vous avez un vélo. Les seuls obstacles, c'est des bases de troncs énormes, mais sinon le sol est nu, comme ici. Ça, c'est les forêts primaires. Attention que ça se fait très rare.
Qu'est-ce que c'est une forêt primaire exactement ?
C'est une forêt qui n'a pas été abîmée par l'homme. Ou alors, si elle l'a été, il s'est passé un nombre de siècles suffisant pour qu'elle redevienne primaire. C'est de l'ordre de 7 ou 8 siècles. Bon, donc on s'y déplace très facilement. De temps en temps, un arbre tombe. Voilà, c'est important de le savoir. Il n'y a pas besoin qu'il y ait du vent. L'arbre tombe. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Une vieillesse ?
Non. Il est investi par une liane qui grandit à toute allure. Et puis tout d'un coup, crac, le poids est excessif, l'arbre tombe. C'est ça les dangers. Mais les animaux, pas du tout. Les animaux, on est très contents de les voir. Il n'y a pas d'insectes dangereux. Dans les forêts primaires, il n'y a pas vraiment de danger. Je plaide pour ces forêts-là.
Mais Francis Allais, la première fois que vous vous êtes trouvé dans ce sous-bois, qu'est-ce que ça a été ce premier choc, cette première vision ?
Un bonheur absolu. C'est drôle parce que longtemps après, je suis retombé sur le témoignage de Darwin visitant les... Il avait 22 ans, et moi aussi. Et il a été ébloui. Il a mis les pieds pour la première fois dans les forêts tropicales du Brésil, Mata Atlantica. Il est ébloui. Ben moi, j'ai été ébloui.
Ébloui par le sous-bois.
Pas tout à fait assez de fleurs pour mon goût. Mais visiblement, c'est d'un tel intérêt. Et puis, vous pouvez toujours regarder ce qui se passe en haut. Là, c'est très, très curieux. Parce qu'en haut, on voit les arbres qui bougent, on voit la faune, très mobile, très, très brillante. On voit les fleurs, on s'aperçoit que c'est couvert de fleurs. Elles sont tout simplement pas en bas, elles sont en haut. Elles sont en haut. Et donc, il faut aller en haut. Moi, je suis mon idée. Je tiens à voir l'endroit où il y a le plus de vie sur Terre. Et maintenant, on le sait, c'est les canopées de ces forêts-là.
Oui. Le sous-bois, donc, vous êtes ébloui. Vous êtes ébloui.
Oui.
Et c'est à s'arrêter, c'est à...
Ah, alors attendez. Pour en profiter pleinement, il faudrait faire 1 mètre par heure. Voilà, ceux qui commencent à faire du jogging là-dedans, ils voient rien et ils sortent de là en disant « Il n'y a que de la salade verte, ça n'a aucun intérêt. » J'en ai vu beaucoup, beaucoup. Plus vous allez lentement, plus vous allez voir de choses. Il faut retourner les feuilles, il faut écarter les feuilles mortes, il faut regarder partout, il faut faire le tour des tiges.
Il faut... Le tour des tiges.
Et oui, parce que souvent les animaux, vous voyez, ils se mettent de l'autre côté. Donc il faut arriver à les surprendre.
Donc des tiges assez épaisses quand même.
Oui, des petits troncs comme ça. C'est passionnant, mais il faut aller très très lentement. Il y a des gens qui exècrent ces forêts. Une chose me frappe, c'est que dans les films grand public, moi je m'astreins à aller voir les films grand public où il y a la forêt équatoriale. j'ai vu une quantité de navets épouvantable. Et même les meilleurs d'entre eux, je pense notamment à Mission ou à Papillon. Oui, Papillon, il y avait des belles forêts. Et bien même les meilleurs de ces films, la forêt qu'on vous montre n'est pas la forêt primaire, c'est la forêt secondaire. Canopée déstructurée, beaucoup de lumière au sol, évidemment des plantes qui poussent, et évidemment, il fait chaud et humide, donc ça pousse. Et là, vous êtes obligé de tailler votre route à la machette, et puis vous avez des insectes en permanence. C'est pas du tout agréable. En plus, ça n'a aucun intérêt économique. Et sur le plan biologique, il y a beaucoup moins d'espèces, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est ça qu'on nous montre au cinéma.
Mais nous, on parle de la vraie. De la forêt primaire, qui est rare encore.
J'insiste sur le fait qu'il y en a vraiment deux, la primaire qui est la vraie, et là, s'il n'y en a plus beaucoup, et puis la secondaire qui est celle que laisse l'homme une fois qu'il a tout. Je ne suis pas à tendre pour le travail des êtres humains dans les forêts tropicales, hein. C'est franchement moche.
Donc un mètre, pas...
Un mètre à l'heure.
Un mètre à l'heure, un mètre à l'heure.
C'est ce que je faisais avec mes étudiants. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus botanistes.
C'est comme ça que la passion
ouais.
vous arrive, je suppose.
Ça vaut le coup de voir le sous-bois la nuit. Il faut se lancer, se jeter à l'eau, si je puis dire.
Vous avez passé des nuits, alors?
Ah oui, moi j'aime bien. Sortir à 3h du matin, sans lampe, c'est un spectacle étonnant. D'abord, vous avez un concert de tous les animaux. Le concert démarre quand le soleil tombe. Pendant la nuit, c'est extraordinaire. Cependant, ce concert, il est là-haut. Il n'est pas au niveau du sous-bois. Il est dans la canopée. Mais enfin, on l'entend très très bien. Et puis, il y a des lucioles. On en a quelques-unes dans le midi, ici. Mais ça se fait rare. Et là, des paquets de lucioles qui clignotent partout en volant. Et puis, sur le sol, vous voyez, en belle forêt primaire, là où le sol est bien dégagé, vous avez des champignons phosphorescents sous forme de grandes lueurs mauves ou orangées. Et ça se déplace, c'est pas stable. Ça s'éteint là, ça s'allume là, ça pulse. C'est très, très curieux.
Et qu'est-ce qui fait allumer ou éteindre ces champignons?
Je ne sais pas. C'est très mal connu. On connaît très peu de choses. On a quelques champignons lumineux en Europe, mais c'est dans le bois mort, il faut le déterrer, c'est pas très facile. Tandis que là, c'est sur le sol de la forêt.
Et l'aube?
Alors l'aube, c'est très étonnant. Il y a ce que les Anglais appellent « down chorus », Le concert s'arrête et c'est uniquement les oiseaux. Down chorus, c'est toute la faune d'oiseaux qui se met à chanter.
Le son, justement, est important, non seulement au niveau du plaisir sonore, je crois, mais avez-vous écrit presque au niveau de la vie et de la survie. C'est-à-dire qu'il faut entendre pour se diriger, entendre pour...
Le son est très important. Mais attendez, ça m'amène à une réflexion un peu plus large. Excusez-moi, sur la littérature scientifique contemporaine. Ça, je peux en parler parce que c'est mon métier. Vous envoyez à une revue un travail scientifique, s'il y a la moindre allusion à ce que vous disent vos sens, le papier sera refusé. Ce que nous disent nos sens, c'est considéré comme totalement subjectif, donc entaché de risque d'erreur. Et puis à la limite, c'est pas de la science, c'est de la poésie, c'est de la philosophie, c'est tout ce qu'on veut. Alors ça, je me bats contre ça. Parce que quand je suis dans une forêt équatoriale, il n'y a que ce que me disent les sens. Il n'y a rien d'autre. Dans un premier temps, c'est ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, c'est ça qui compte. Alors le résultat, c'est que les beaux livres consacrés aux forêts équatoriales, je les trouve assez nuls, parce qu'il n'y a rien de sensuel là-dedans. Attendez, pour identifier les arbres, on ne voit pas les feuilles, elles sont trop... Donc on fait une petite blessure avec un couteau, on met l'oreille dessus. La plupart ne font pas de bruit, il faut reconnaître. Mais de temps en temps, il y en a un qui fait comme un soda. Vous entendez les bulles qui... Et bon, ça nous permet d'identifier les arbres. On sent l'odeur de la coupe. Alors ça, c'est un excellent critère. Mais seulement, les odeurs, c'est curieux, vous ne pouvez pas... les décrire, vous pouvez juste procéder par comparaison. Un arbre, par exemple, qui sent la voiture neuve, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde connaît cette odeur-là.
Surprenant.
Un arbre qui sent la salade de carottes. Un arbre qui sent votre urine le lendemain du jour où vous avez mangé des asperges. On est obligé de procéder comme ça. Mais ça marche, et c'est très stable. Hein. Vous retrouvez le même arbre le lendemain, il sent la même chose. C'est comme ça qu'on est obligé d'identifier nos arbres. Alors quand les revues scientifiques nous censurent parce qu'on fait état du témoignage de nos sens, je me dis, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Dans un labo, oui, mais pas en forêt.
Et puis c'est à partir des sens qu'on arrive après à peut-être à bâtir des théories.
Il y a un côté faux cul là-dedans, attendez. Ouais, moi, je ne suis pas du tout ce genre de choses. Il me faut au contraire. De toute façon, dans un milieu comme le sous-bois équatorial, il n'y a pas d'autre solution. Ils n'ont qu'à y aller, ils verront bien.
Alors, vous êtes en train de nous décrire, Francis Allais, les merveilles du sous-bois. Et puis, en fait, vous avez toujours regardé là-haut. En haut de ces grands troncs.
C'est-à-dire.
En haut de ces grands troncs.
C'est parfaitement évident que c'est mieux là-haut. Vous avez le soleil déjà. Parce que le sous-bois, j'ai peut-être donné du sous-bois une image un peu trop agréable.
Enfin, vous avez parlé d'austérité aussi.
Oui, c'est très austère, mais ça va parfois un peu plus loin que ça. Vous êtes entouré d'épines. Vous avez de la boue. Vous avez des sangsues sur le sol. Vous avez des fourmis. Enfin bon. En regardant en haut, on se dit tout de même, c'est mieux là-haut. Il y a un beau soleil, brillant. Quand le jour tombe, par exemple, vous êtes dans le noir, dans le sous-bois, et vous voyez que le haut des arbres est encore en plein soleil. Vous vous dites, si j'étais là-haut, je serais encore en plein soleil. Et puis, on sent qu'il y a le vent, parce qu'on voit que ça bouge, et on voit passer les animaux, très colorés, très rapides. Les animaux du sous-bois, ils ne bougent pas. Comme je vous ai expliqué, leur stratégie, c'est de ne pas bouger. Là-haut, c'est pas du tout ça. Ils sont extrêmement mobiles. Et donc, ça donne une terrible envie de monter là-haut. Moi, j'ai toujours eu envie d'aller travailler dans la canopée. Ouais, ouais. C'est marrant parce que une année, j'étais en Guyane avec un groupe d'étudiants de Montpellier. On était dans le sous-bois, assis sur des bûches pourries. Enfin bref, la routine. Et puis, on a évoqué les moyens d'atteindre la canopée. C'est l'année des missions Apollo. Et il y en a un qui a dit, je crois que c'est une fille, qui a dit, mais c'est tout de même idiot. On est capable de se poser sur la Lune et on ne serait pas capable de se poser sur la canopée qui est 50 mètres au-dessus de nous. Tout d'un coup, ça nous a frappé comme une évidence. On s'est dit, effectivement, il faut trouver une solution.
C'était À voix nue. Simone Douex s'entretenait avec Francis Allais. Réalisation, Gilles Davidas. Demain, un vieux rêve, la canopée. Thank you.